au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Au fil des pages. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean Lopez, auteur d'un ouvrage sur la bataille de Stalingrad, paru aux éditions Economica. Jean Lopez, bonjour.
Bonjour.
Permettez-moi de vous présenter à nos auditeurs. Ancien officier de la marine marchande, vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef d'un magazine de vulgarisation scientifique. Mais si vous êtes au micro de Canal Académie aujourd'hui, c'est en tant qu'historien et spécialiste du conflit germano-soviétique. Et dans votre dernier ouvrage, Stalingrad, la bataille au bord du gouffre, vous proposez une vision neuve de cet épisode marquant de la Seconde Guerre mondiale. Alors tout d'abord, Jean Lopez, expliquez-nous comment vous est apparue la nécessité de porter un nouveau regard sur la bataille de Stalingrad.
C'est dans le cadre d'une réflexion et d'un manque personnel plus général sur l'histoire militaire en France, qui, concernant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il s'agit de mon domaine, se concentre quasi exclusivement sur la campagne de 40 d'une part, qui nous concerne au premier chef, bien entendu, et sur l'opération Overlord, c'est-à-dire le débarquement en Normandie. Concernant le conflit germano-soviétique, qui est une guerre dans la guerre à lui tout seul, qui est un affrontement titanesque, monstrueux, par sa durée, son ampleur, le chiffre effarant de 40 millions de morts, le public français, comme moi-même, qui suis un grand amateur d'histoire militaire depuis toujours, je reste sur ma faim. Nous n'avons droit qu'à des traductions d'ouvrages très grand public d'origine anglo-saxonne. On a laissé de côté depuis 25 ans un mouvement parti des États-Unis qui a complètement renouvelé la problématique du conflit germano-soviétique et qui s'incarne de très grands historiens qui ne sont pas traduits en France, qui n'ont jamais été traduits, qui s'appellent David Glantz, qui s'appellent Bernd Wegener ou Manfred Kerig en Allemagne, qui s'appelle John Erickson ou Catherine Meridal en Grande-Bretagne. Ces gens ont véritablement fait un aggiornamento complet de ce que l'on sait sur le conflit germano-soviétique. Stalingrad n'a pas échappé à cette remise en question de la Vulgate, qui est diffusée depuis maintenant plus de 50 ans. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de proposer au public français une synthèse solide de ces travaux d'érudition qui sont parus dans une autre langue que la nôtre.
Parfait, et en effet, c'est une des grandes richesses de votre ouvrage d'avoir utilisé cette documentation étrangère. Alors, plongeons maintenant dans la bataille à proprement parler, j'ai envie de dire. Et donc, au printemps 1942, les Allemands se lancent vers le sud avec le plan Blau. Les préliminaires du plan Blau se soldent par 3 victoires retentissantes pour la Wehrmacht. Donc, quelles sont les conséquences de ces défaites soviétiques du côté allemand et du côté soviétique ?
Juste un mot pour resituer l'offensive, ce qu'on appelle l'opération Blau, le plan bleu. C'est la seconde offensive stratégique du Troisième Reich en Russie soviétique. La première était la fameuse opération Barbarossa qui est venue mourir aux portes de Moscou à l'hiver 1941. En 1942, Hitler a beaucoup moins de possibilités. La Wehrmacht a beaucoup souffert pendant l'hiver. Il décide donc d'une offensive partielle sur la moitié sud du front, offensive qui s'appelle le plan Blau. Mais avant de déclencher cette attaque, il lui arrive une divine surprise. Les Soviétiques se lancent de façon inconsidérée à l'attaque de la ville de Kharkov, qui est la deuxième grande ville de l'Ukraine, l'Ukraine orientale, et subissent une défaite terrifiante, qui va être redoublée quelques semaines plus tard en Crimée et à Sébastopol. Le bilan il est sans appel, puisqu'en un mois de combat extrêmement dur, les Soviétiques laissent 550 000 hommes sur le terrain et un millier de chars, des milliers d'avions, une artillerie absolument considérable. Et du côté d'Hitler, alors que visiblement les généraux traînaient les pieds pour partir sur le plan Blau, c'est l'euphorie complète. On jubile, ouais. Les doutes sont effacés. Oui, encore une fois, le Führer a trouvé l'arme secrète. Et puis surtout, du côté allemand, on se conforte dans un jugement sur l'infériorité quasiment congénitale, au sens raciste du terme, de l'adversaire soviétique. Ce n'est pas un adversaire à la taille de l'Allemagne, il vient encore de le montrer dans 3 batailles où il avait l'initiative et où il a été piteux. Et il est vrai que les Soviétiques ont été en dessous de tout. Cependant, pour les Soviétiques, je dirais que ce n'est pas totalement négatif parce qu'ils mettent le doigt sur la principale de leur faiblesse qui est que ils ne sont pas capables d'articuler des offensives entre ce qui est l'élément de base de leur armée qu'on appelle le front. Le front, c'est l'équivalent d'un groupe armé. Je dirais que c'est la super articulation d'une armée. Une armée, c'est tout un tas d'unités, ça part de la section, la compagnie, le bataillon, etc. Ça se termine par des armées, et puis après ça se regroupe en groupe d'armées. Les soviétiques appellent ça un front. Quand ils essayent de faire coopérer des fronts, c'est l'échec assuré. Donc il y a un vrai problème qu'ils identifient grâce à ces défaites, et ce problème, ils vont y remédier en déléguant, un peu comme pendant la Révolution française, des sortes de super commissaires, qu'on va appeler les représentants spéciaux, les représentants en mission en quelque sorte, de la Stavka, qui est l'organe supérieur de la direction de la guerre, et qui vont être chargés de faire travailler ensemble des fronts, ce qui jusque-là avait toujours été un échec retentissant. Et on charge de cette fonction de supervision deux extraordinaires généraux, deux hommes de guerre hors du commun, qui sont Joukov, bientôt maréchal, et Vassilevski, le chef d'état-major de l'armée rouge. Donc ça permet à Staline d'identifier le premier besoin. Et puis la deuxième découverte, et elle a un rapport direct avec Stalingrad, c'est que dans les combats de Sébastopol, l'armée rouge redécouvre sa grande force, la défense. Et notamment en milieu urbain, elle s'aperçoit que les Allemands ont sué sang et eau pour prendre de Sébastopol et au prix de pertes absolument colossales. Donc là, il y a une sorte de répétition générale de ce que va être Stalingrad, avec l'émergence d'un homme totalement obscur dans l'historiographie occidentale qui s'appelle le général Krylov, qui est un homme exceptionnel qui a vécu le grand siège de Odessa en 1941, qui a magnifiquement mené la résistance de Sébastopol et qui, comme par hasard, va être le chef d'état-major du général Tchouïkov, le patron de la 62e armée, qui va défendre Stalingrad. Cet homme est, en septembre 1942, the best man in the best place. C'est le seul homme qui a une véritable expérience du combat urbain. Ça n'est pas à négliger.
Alors, nous n'en sommes pas encore à septembre 1942, mais retournons plutôt vers juin et juillet 1942, puisqu'à cette époque-là, Stalingrad n'est pas encore un but, je dirais, pour Hitler. Personne n'a décidé d'attaquer Stalingrad. Comment?
Non, c'est un des paradoxes du plan Blau.
Que prévoyait le plan Blau?
Le plan Blau, il a un objectif stratégique essentiel, c'est d'atteindre les trois bases pétrolières soviétiques qui sont Maïkop, Grozny en Tchétchénie, bien connu aujourd'hui pour d'autres événements, et Bakou en Azerbaïdjan. Ces trois ensembles de puits représentent environ 80% de la production pétrolière soviétique. La pensée d'Hitler, c'est de s'en emparer, lui qui manque cruellement de pétrole, et surtout d'en priver l'adversaire pour l'empêcher de motoriser son armée. C'est un plan qui est tout sauf un plan idiot. C'est un plan qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur l'évolution de la Seconde Guerre mondiale. Mais là-dedans, il n'est pas question de Stalingrad. Il est dit simplement dans le plan Blau, que l'armée allemande doit s'approcher de Stalingrad et mettre la ville hors circuit en tant que centre de communication et centre de production d'armement. Et c'est à peu près tout. Il n'est jamais question pour l'état-major allemand d'entamer une bataille de Stalingrad.
Alors finalement, c'est la directive 45 qui parle pour la première fois de Stalingrad, je crois. Et cette directive a souvent été vue par les historiens comme responsable du désastre final.
Alors, c'est faux. C'est faux.
Oui, je sais que vous n'êtes pas d'accord.
Non, je ne suis pas d'accord. Non, bien sûr, la directive 45, donc je résume, la directive 45 qui date du 23 juillet 1942 est prise par Adolf Hitler, elle est contresignée par le général Halder. Elle dit en gros que l'effort allemand doit maintenant se diviser en deux branches asymétriques, écartées à 90 degrés, ce qui est une faute majeure dans l'art militaire. La branche la plus faible doit se diriger vers Stalingrad, à travers l'immense steppe du Don, il y a 400 km à faire par une chaleur harassante, et l'autre branche la plus forte doit foncer à travers le Caucase jusque à Bakou, en Azerbaïdjan, un saut de 1000 km. C'est absolument gigantesque. Cet écartèlement à 90 degrés des deux forces est hors de portée de la logistique, sans parler du reste, de la logistique allemande. Il n'y a tout simplement pas assez de camions, pas assez de transporteurs Junker 52 sur des avions, pour ravitailler deux efforts aussi considérables. Cet écartèlement dû à la directive 45 est bien la cause de l'échec final du plan Blau, mais n'est nullement la cause du désastre de Stalingrad. La cause, elle est ailleurs. Il y a toute une série causale qui viendra après, qui explique Stalingrad.
Mais alors, est-ce là une erreur stratégique d'Hitler
Oui, incontestablement. Hitler a apparenté la grande retraite totalement inattendu par lui et par ses généraux. C'est-à-dire, en fait, ce que croyait Hitler, c'est qu'en attaquant dans la boucle du Don, il allait, comme en 1941, capturer tranquillement des millions d'hommes qui se laisseraient encercler docilement, comme ça avait été le cas en 1941. Or, pas du tout. Staline a compris quelque chose. Il a eu du mal à l'entendre. Et Vassilevski l'a sans arrêt rappelé à l'ordre, dans les formes naturellement, on ne plaisante pas avec Staline, c'était de faire reculer l'armée soviétique. Reculer, 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 car on n'est pas en mesure d'arrêter le rouleau compresseur allemand. Donc Hitler est stupéfait, il ne saisit pas les masses d'hommes qu'il attend, mais il voit devant lui une armée qui recule sans arrêt, et surtout il prend Rostov. Rostov, la porte du Caucase, la ville majeure, le verrou stratégique, il s'en empare en 72 heures. Tous les rapports qui lui parviennent montrent que l'armée rouge est en train de se déliter, de se désagréger, qu'elle n'est plus commandée. Il apparente donc ce moment à ce qui, pour nous Français, a été les opérations de poursuite de la deuxième partie de la campagne de France, quand les Allemands n'avaient plus rien à craindre de l'armée française qui filait vers le sud, et c'était de la poursuite. Hitler croit qu'il est dans une phase de poursuite, donc il perd toute prudence et il disperse ses efforts.
Il disperse ses efforts et donc il décide de s'attaquer à Stalingrad.
Et il envoie une armée toute seule, la 6e armée, certes la plus puissante de la Ostheer, de l'armée allemande à l'Est, la 6e armée commandée par le général Paulus.
Et alors pourquoi Stalingrad ?
Alors, la mission de Paulus, au départ, elle est de mettre fin à la fonction économique et militaire de Stalingrad, c'est-à-dire en gros interdire le passage des péniches tankers chargées de l'or noir qui vient de Bakou par la Caspienne et qui remonte la Volga jusqu'à Moscou et la zone industrielle de l'Oural. Il s'agit de bloquer ce trafic. Vous serrez d'un coup l'artère, on met l'Union soviétique à sec. Et c'est d'autre part détruire les grandes usines d'armement qui se trouvent là.
Voilà,
mais cet objectif, on peut l'atteindre à distance. En gros, le 23 août 1942, quand Paulus a réussi à projeter deux divisions blindées au bord de la Volga et à interrompre tout trafic ferroviaire et fluvial, le contrat est rempli. Il n'y a plus de raison de prendre ce tas de ruines qu'est Stalingrad après le bombardement massif du 23 août. Il y engage cependant Paulus au début du mois de septembre 1942. Et les combats vont traîner pendant 2 mois et demi.
Et quels combats, je dirais ?
Des combats épouvantables. Bon, on ne va pas le répéter, mais ça a été un enfer.
Alors, juste, la bataille de Stalingrad donc, est quand même connue dans l'historiographie pour être, déjà par le nombre de tués, les dégâts. Et souvent, elle a été connue comme étant l'arrêt de mort de l'Allemagne nazie. Alors, je crois que vous n'êtes pas d'accord, on y reviendra. Et vous montrez surtout, vous, que la nouveauté de cette bataille, c'est le fait qu'il s'agit pour la première fois d'un combat urbain.
Oui, c'est la première fois, à part quelques épisodes. Disons que la ville, dans l'histoire militaire habituelle, c'est le siège, le long siège. Là, on se bat. Le champ de bataille, c'est la ville.
Et une ville en ruine.
Une ville en ruine, une ville qui s'étend sur 50 km et qui est truffée d'installations industrielles. On est dans un paysage totalement différent qui n'a plus rien à voir avec les grands espaces de la guerre moderne, de la guerre mécanisée. On est enfermé dans un monde plein de pièges, plein de choses trappes, où on ne peut plus raisonner à l'échelle habituelle. Il faut raisonner à des échelles beaucoup plus petites. Les Allemands n'ont pas d'expérience de ce type de guerre. Les Soviétiques, à l'exception du général Krylov, chef d'état-major de la 62e armée, n'en ont pas beaucoup plus. Il va falloir improviser, s'adapter à une guerre de rats. Bien sûr, mais ça ne veut pas dire que les Allemands ne pouvaient pas l'emporter. Je pense que, raisonnablement, jusqu'au 15 octobre, les Allemands ont encore les moyens d'emporter cette bataille.
Mais alors, les Allemands et les Soviétiques étaient finalement aussi peu préparés les uns que les autres.
Bien sûr, oui. Personne n'envisage de mener une guerre moderne dans un champ de ruines.
Et finalement, les Russes vont finir par l'emporter alors que...
Alors, ils ont contenu leur adversaire. Ils ont fait un effort d'adaptation au prix d'un bain de sang. On a écrit beaucoup de choses très fausses en disant que Staline avait ravitaillé cette armée au compte-gouttes, en lui permettant juste de tenir pour lui permettre d'amasser des réserves ailleurs. C'est faux. J'ai repris en détail la liste des unités soviétiques qui ont été engagées à Stalingrad. C'est la crème, c'est l'élite, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est les gardes frontières d'Extrême-Orient, c'est les tirailleurs sibériens, ce sont des unités spéciales du NKVD, ce sont des parachutistes, c'est de l'infanterie de marine. C'est ce qu'il y a de meilleur dans l'armée rouge. Donc on s'est complètement trompé. Et l'alimentation en hommes, en sang frais, il faut appeler les choses par leur nom, oui, elle a été massive.
Oui, vous parlez de la capacité à mourir des Russes qui a été finalement une grande force.
Je n'arrive pas à retrouver l'origine de cette citation qui disait « Les Allemands ont failli gagner cette guerre par leur capacité à tuer ». les Soviétiques l'ont reporté par leur capacité à mourir. Et ça s'est vérifié à Stalingrad.
Alors à Stalingrad aussi, pour Staline, il est important de gagner cette bataille.
Essentiel, car ça aussi je pense que c'est quelque chose de neuf que nous a apporté l'historiographie anglo-saxonne et notamment un grand économiste de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle Mark Harrison, qui travaille en Angleterre, c'est que l'Union soviétique est à genoux. C'est un peu comme dans la théorie des catastrophes. Il suffirait d'un petit battement d'aile de papillon pour déclencher l'effondrement de tout le système. En gros, Staline voit littéralement sa base économique et humaine se dérober sous ses pieds. En septembre 1942, l'Union soviétique a perdu les trois quarts de son potentiel agricole et la moitié de son potentiel industriel. On travaille dans les usines dans des conditions qui défient l'imagination d'un occidental, au moyen d'une répression policière inimaginable par sa dureté. Ce système ne peut pas fonctionner très longtemps. Si les Allemands avaient réussi à interrompre l'approvisionnement en hydrocarbures de l'économie soviétique, s'ils avaient réussi à couper la principale voie d'arrivée de l'aide américaine et britannique, ce fameux corridor persan dont personne ne parle jamais, qui était pourtant l'artère vitale, je pense qu'il aurait été possible à ce moment-là qu'au début de 1943, l'Union soviétique s'effondre. Hitler en est d'autant plus persuadé qu'il est, comme ses généraux, empêtré dans le souvenir de 1917, lorsque la paralysie du système ferroviaire de la Russie tsariste avait provoqué l'effondrement. Il pense que les chemins de fer tsaristes, c'est le pétrole de Bakou. Donc c'est in extremis que Staline a sauvé son régime et son pays.
Oui, donc en janvier, finalement, les soviétiques reprennent la ville, quartier par quartier, ils emportent la bataille. Quel est le bilan politico-militaire de Stalingrad ?
C'est un désastre pour les Allemands, pas tellement du point de vue numérique. Bon, certes, ils ont perdu une armée de 280 000 hommes, ça n'est pas rien, eux qui sont à court d'effectifs. Mais je dirais que l'échec, il est politique, dans la mesure où l'axe que Berlin avait réussi à constituer, cet axe qui comportait donc des Italiens, des Hongrois, des Roumains, cet axe, il s'effondre. Les pertes de ses alliés ont été absolument colossales. Tous, y compris la petite Finlande que j'ai oubliée, vont tenter de retirer leurs billes. Berlin se retrouve tout à coup extrêmement seul pour mener ce conflit. Il y a donc là une victoire politique et morale incontestable de Staline. Psychologiquement, il y a un tournant. Le complexe russe, complexe qui remonte, à mon avis, au moins au XVIe et XVIIe siècle. Ce vieux complexe d'infériorité face à l'Allemand, le Niemiec, celui qui amène la civilisation, la technologie, celui qui paraît invincible, ce complexe va s'effacer. Ça ne va pas venir tout de suite, mais c'est le début de la décolonisation des esprits russes quant à cette prépondérance technique et organisationnelle des Allemands. C'est quelque chose qui transparaît dans un certain nombre de lettres d'officiers supérieurs. On n'a plus peur d'eux. Tout à coup, on se rend compte que notre grand désordre russe, il peut devenir un ordre face à la machine germanique. Nous aussi, on peut devenir une machine. Nous aussi, on peut s'organiser. Il y a vraiment un revirement psychologique qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a bien d'autres facteurs qui font de cette bataille quelque chose d'important, mais celui-là, à mon avis, est très important.
À l'Ouest aussi, d'ailleurs. Ça a marqué quand même une des défaites, ça a été très important.
Pour l'ensemble des alliés. Oui, ça a été salué partout. Il faut dire que les Anglais et les Américains, au mois de septembre, là j'ai étudié des rapports des services spéciaux américains, sont persuadés que le Russe ne va pas passer l'hiver. C'est la réédition de 1917, notre allié de l'Est va se dérober. Donc là, il y a un véritable soupir de soulagement avant que ça devienne de l'inquiétude. Au début de 1944, cet allié qui progresse trop vite, ça deviendra un sujet d'inquiétude pour Washington et surtout pour Londres. Mais en 1943, c'est un immense soulagement. Ils vont tenir.
Alors cette bataille de Stalingrad, on a souvent dit que c'était une grave erreur stratégique finalement d'Hitler, qu'il était devenu fou déjà.
Je ne pense pas qu'on puisse un moment prétendre qu'Hitler ait été fou. Qu'il ait été un être pervers et amoral, très certainement. Un des grands assassins de l'histoire, ça n'est plus à prouver. Mais qu'il ait été fou, je ne crois pas. C'est un homme qui est capable d'une grande rationalité. Et en matière militaire, je dirais qu'il a ce qui manque à ses généraux. Il a une tête stratégique. C'est la raison pour laquelle je voudrais juste un peu moduler cette remarque. Le plan Blau n'est pas une folie stratégique. Je le trouve bien pensé, bien articulé, bien qu'avec des moyens un peu trop faibles. Mais il aurait pu donner des résultats, même à partir de septembre. Hitler a une chance inespérée, il ne s'en est pas rendu compte, c'est ça qui est fou, de détruire totalement le potentiel en hydrocarbures de l'adversaire. Il ne pouvait pas s'en emparer, mais il pouvait le détruire. Et donc les paralyser pendant 6 mois. Il ne l'a pas fait. Donc stratégiquement, tout ça est pas mal pensé. En revanche, il est incontestable qu'il est totalement responsable du désastre de Stalingrad, c'est-à-dire de la destruction de la 6e armée dans les ruines de la ville.
Mais cette bataille de Stalingrad, donc, ne marque pas, selon vous, l'arrêt de mort de l'Allemagne nazie.
Je dirais qu'elle est la dernière étape d'un processus au long duquel l'Allemagne nazie a perdu de plus en plus de chances de remporter la victoire. L'Allemagne nazie a su, en 1941 et à l'été 42, avec le plan Blau, a su provoquer des situations qui auraient pu potentiellement être décisives. Elle les a gâchées, en partie grâce à la résistance extraordinaire de son adversaire. Et Stalingrad, c'est la fin. Il n'y aura plus de situation stratégiquement favorable pour les Allemands. Ils ne pourront plus véritablement reprendre l'initiative stratégique. Mais on ne peut pas dire que c'est Stalingrad qui, tout à coup, a tout enlevé à l'Allemagne. C'est un processus d'érosion qui a commencé dès 1941. Je ne vais pas reprendre les 4 erreurs majeures, mais Stalingrad est la 4e. Ce sera la dernière.
Merci Jean Lopez. Nous arrivons au terme de notre émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Stalingrad, la bataille au bord du gouffre, aux éditions Economica. Je vous dis à très bientôt sur Canal Académie. Au revoir.